Inter, le 18-20.
Et de deux, cette année encore, votre compte en banque va vous coûter plus cher, en hausse pour la deuxième année consécutive. Les frais bancaires vont même atteindre un niveau sans précédent en 2017, en moyenne 193,80 € par détenteur de compte, soit une hausse d'1,7%. Résultat d'une étude menée par le site panorabank.com. Sur les 158 banques comparées, 114 ont décidé d'augmenter leurs tarifs. Et tout ou presque y passe, les frais de tenue de compte, les retraits dans des distributeurs de banques concurrentes, les cartes bancaires à débit immédiat ou encore les incidents de paiement, vous savez, les fameux agio. Mais il faut les comprendre, les banques, les pauvres banques qui, depuis la crise de 2008, depuis l'effondrement des taux de crédits immobiliers, voient fondre leurs marges, sans compter leurs très lourds investissements. Voilà pour l'argument officiel du banquier. Mais pour vous et moi, reste bien sûr la désagréable impression de se faire tondre la laine sur le dos. Alors ces augmentations sont-elles, oui ou non, justifiées? Peut-on refuser? Comment doit-on par exemple faire jouer la concurrence? Choisir une banque en ligne plutôt qu'une banque de réseau? On pose toutes ces questions ce soir. Et que vous soyez banquier, client ravi ou exaspéré, on attend toutes les vôtres, vos commentaires au 01 45 24 7000 sur internet franceinter.fr et sur Twitter hashtag Telson.
Michaël Thébault, le téléphone sonne.
Et tout de suite au standard de France Inter, c'est Mathieu de Chartres qui ouvre ce téléphone sonne. Bonsoir Mathieu, soyez le bienvenu.
Bonsoir, oui alors moi j'ai deux réflexions. J'ai l'impression que les banques c'est comme le casino en fait, c'est toujours elles qui gagnent au final. Quand elles gèrent mal les choses, c'est de l'argent public qui les rend flous, et quand elles gèrent bien les choses, ça y a pas de retour. Et ma deuxième remarque c'était que les frais bancaires qui augmentent affectent plus les petits revenus que les gros. Et pour aller un petit peu plus loin, je pense même que les gros clients ont moins de frais de tenue de compte que les petits clients.
Eh bien, merci beaucoup, Mathieu, de cette double réflexion qui pose le débat ce soir. Alors, pour en parler, deux invités, Guillaume Clavel, président fondateur du comparatif de tarifs bancaires panorabank.com, dont je citais l'étude à l'instant. Bonsoir.
Bonsoir.
Et bonsoir, Serge Maître, président de l'AFUB, l'Association française des usagers des banques.
Bonsoir à vous.
Et je précise avant que vous ne répondiez que sollicité par nos soins, par France Inter, la Fédération bancaire française n'a trouvé personne, tiens, à envoyer ce soir sur le plateau. Qui veut réagir à Mathieu?
Disons que il est une réalité. L'une des réflexions concerne le rôle, peut-être l'intégration sociale des banques dans l'économie. Quand ça va mal, on les aide, et quand ça va bien, on n'a pas de retour. C'est sans doute un peu rapide comme affirmation, mais c'est vrai que ça nous laisse à penser, vu d'en bas, que c'est tout à fait cela, et je ne saurais contester la conclusion de Mathieu Rebourg. Les petits se payent plus que les gros. C'est pas toujours les mêmes consommations entre le petit consommateur et le gros. Le petit consommateur, il a accès à des prestations contraintes parce que toutes ces personnes ont l'obligation d'avoir un compte bancaire. Ayant l'obligation d'avoir un compte bancaire,
loi de 77.
On consomme pas de la même manière qu'on est petit ou gros. Et là, le petit a des dépenses contraintes. Prenons les deux postes qui augmentent énormément. C'est par exemple les frais de tenue de compte. Il est évident que lorsqu'on a de faibles revenus ou des revenus moyens, rappelons que la moitié de la France gagne moins de 1 500 €, la moitié des retraités touchent moins de 900 €. Ça veut tout de suite dire que les petits, c'est au moins la moitié de la France. Eh bien là, avoir des frais de tenue de compte qui augmentent de 13%, c'est très lourd pour eux. De la même manière, les cartes bancaires à débit immédiat, sont en train de rattraper les cartes bancaires à débit différé. Et là, se pose une autre question, et il ne s'agit pas d'être gros ou petit, là, c'est de se demander, mais quelle est la contrepartie de ces augmentations? Où est le meilleur, l'amélioration du service? Et là, on a bien difficile. Alors, je dirais, gros ou petit, le petit se dit, le champ du voisin est meilleur si j'étais plus riche. Je peux vous dire d'expérience que ceux qui se plaignent ne font pas de différence de fortune.
Guillaume Clavel, sur la qualité du service, puisque c'est l'un des arguments des banques pour ces nouvelles augmentations, il est où le service supplémentaire?
Alors, je crois dire que depuis quelques années, on a vu arriver des services très différents parce que la banque s'est fortement digitalisée. Est digitalisé, Internet est devenu le point de contact essentiel pour les clients. Il y a beaucoup plus de contacts avec son compte en banque que ce qu'on avait en agence. Autrefois, pour demander mon solde, j'attendais devant le guichet. Pour avoir un RIB, j'attendais devant le guichet. Pour faire un virement, j'attendais devant le guichet. Maintenant, je fais toutes ces opérations moi-même, à partir soit de mon ordinateur, soit de mon téléphone mobile. Alors ça, c'est quand même un gain absolument fantastique pour le consommateur. Et c'est vrai que la banque a dû investir pour le faire. Après ça, tout cet Internet, et je rejoins ce que disait Serge tout à l'heure pour dire qu'il y a des frais qui augmentent fortement, la carte bancaire augmente fortement, les frais de tenue de compte très fortement, mais il y a des bonnes nouvelles quand même, parce que l'Internet, la gestion de compte sur Internet est de plus en plus gratuite. L'Internet, c'est le gratuit. L'Internet nous permet de faire des opérations. Ces opérations qui sont faites par le client, elles ne sont pas faites par l'opérateur bancaire. Internet, c'est un petit peu le client fait tout et les machines font le reste. Mais donc, il faut voir que les banques, elles ont été obligées d'investir, avoir ce double business model.
Oui, on pourrait se dire que justement, en mettant l'accent sur le numérique et en fermant en parallèle de plus en plus d'agences physiques, le ratio, il y a un équilibre qui se crée,
elles
non?
Elles font des économies, pour parler simple. Elles font des économies voilà. De personnel, elles font des économies de locaux. Effectivement, dirait, si nous y retrouvons peut-être par une qualité de service dans certains cas, pour certains d'entre nous qui utilisons Internet et nous sommes de plus en plus nombreux, il est évident que la banque elle-même s'y retrouve. Et pourtant, on paye plus cher là où elles économisent apparemment en personnel et en locaux. C'est pas la bonne explication de nous dire ça s'améliore le service. Là, on se dira, mais il s'améliore sous une certaine direction. Et d'ailleurs, on peut se soupçonner que si c'est gratuit l'accès par Internet, effectivement, ces trois années, il n'y a plus qu'une ou deux banques qui gardent la tarification pour l'accès Internet à ses clients. C'est tout un simplement pour nous guider dans une démarche qui va nous éloigner de l'agence, nous éloigner d'un contact nécessaire jusqu'à présent, comme vous disiez, à un salarié, à un conseiller.
On repart au standard. Thierry nous appelle de Lyon. Bonsoir Thierry, nous vous écoutons.
Bonsoir à tous, belle année 2017.
Merci à vous aussi.
Une question, les banques de dépôt se plantent partout. Sur les investissements, sur la spéculation immobilière, sur les taux d'intérêt, sur les spéculations intermonétaires, il faut bien que les banques de dépôt récupèrent un peu d'argent auprès des gens normaux.
Vous travaillez dans le secteur bancaire, Thierry ?
Oui, j'ai travaillé dans le secteur bancaire.
Très bien, alors on va vous répondre, Serge Maître. Les banques perdent énormément, il faut bien qu'elles se récupèrent quelque part.
C'est à la fois un peu humoristique, effectivement, ça nous laisserait penser qu'elles se rattrapent sur quelque chose d'autre, mais c'est de toute façon l'objectif affirmé. Ah, je gagne moins sur tel sujet, donc je me rattrape sur les frais et commissions. C'est vrai, et puisque vous êtes Thierry, issu de la banque, c'est vrai que les banques françaises sont guidées par un modèle de développement économique, de stratégie, qui n'est pas suivi, par exemple, en Allemagne. En France, on a mis le projecteur de la part des banques, sur le fait qu'elles géraient le flux financier et qu'elles pouvaient gagner de l'argent suffisamment, avec une marge suffisante, en gérant les flux financiers. Et je me souviens d'avoir fait des conférences en Allemagne à la demande de la Commission européenne, et les banquiers allemands nous disaient, mais c'est une hérésie, on ne pourra jamais gagner à vouloir prétendre gérer tous les flux financiers, c'est-à-dire récupérer les revenus des uns et des autres, les traitements, les salaires. Là-dessus, la marge est beaucoup trop petite. D'où, chez nous, on a pratiquement à tous les carrefours, dans les grandes métropoles, 4-5 banques, déjà, qui se font supposer concurrence, et on parlera de la concurrence. En Allemagne, vous avez déjà beaucoup plus de mal à retrouver des guichets avec une telle densité.
Si je joue l'avocat des banques, puisqu'il n'y en a pas ce soir en studio, la banque, c'est pas une association loi 1901, c'est une entreprise. Elle est là pour faire des bénéfices.
En fait, ce qui n'est pas en cause...
Sur notre dos, parfois,
Oui, nous n'exagérons rien. Ce qui est en cause, ce sont fondamentalement actuellement sur l'augmentation tarifaire. Ce n'est pas le fait qu'elles fassent des profits. On est bien content qu'elles en fassent. Rappelons, plusieurs centaines de millions pour la Banque Postale, plus de 2 milliards pour la BNP ou la BPCE. Bon, mais c'est très bien. Ce qu'il y a, c'est l'augmentation de cette tarification, qui n'est pas en relation avec le gâteau France. Le PIB augmente de 0,4%. Cette année, voilà que nos salaires ils augmentent à peine d'1%. C'est une économie bancaire, financière totalement décrochée de la réalité de la Maison France. Et là, si on augmente autant les tarifs, c'est quasiment comme les plantes, ça profite. On vit sur le dos de l'économie.
Question qui vous est directement adressée à Guillaume Clavel, question de Philippe Agnor sur franceinter.fr. Les frais sont-ils vraiment moins élevés avec les banques en ligne? Et si oui, de combien?
Alors, je pense que vraiment la chose qu'il faut comprendre quand on parle de l'économie d'une banque, c'est de se dire que la banque est une entreprise de service. L'entreprise de service, qu'est-ce qu'elle fait? Elle gère votre épargne, elle fait circuler votre argent et elle vous prête de l'argent. Après ça, elle le fait par différents moyens. Elle le fait par différents moyens qui sont l'agence ou qui sont le téléphone ou qui sont l'Internet. La banque en ligne, elle n'a pas à faire vivre 40 000 agences, 250 000 personnes derrière ces agences. Et ça, il faut bien que, il y a beaucoup de directions générales de banques qui se disent, moi, j'ai du mal à maintenir des coûts et à ne pas baisser mes agences pour ne pas être une espèce de scandale pour l'emploi, limiter beaucoup les emplois. Alors, où est-ce que les banques en ligne gagnent de l'argent? Elles gagnent de l'argent pas avec les cartes de crédit, parce qu'en général, elles sont gratuites. Ou presque, pas avec les commissions d'intervention, parce que en général, il n'y en a pas. Pas avec des frais de tenue de compte, parce qu'en général, il n'y en a pas. Elles vont gagner de l'argent parce que le client qui va venir chez eux va être un client qu'elles vont avoir, disons, choisi, parce qu'il va avoir une capacité d'épargne, parce qu'il va avoir une capacité à emprunter de l'argent pour un crédit immobilier, et parce que l'ensemble des flux qui va passer par son compte, la banque va gagner de l'argent.
Est-ce que le service est le même entre une banque en ligne et une banque en réseau?
Il faut se poser la question, de quoi est-ce que j'ai besoin? Est-ce que je veux avoir une agence? Est-ce que je veux avoir un conseiller personnel dédié? Est-ce que je veux avoir une hotline qui fonctionne de 8h du matin à 11h du soir, dimanche compris? À partir du moment où je veux avoir une agence, je vais être obligé de payer pour cette agence.
Serge Maître.
Je dirais que celui qui ne va jamais à son agence bancaire peut être client d'une banque en ligne.
Bien sûr.
C'est tout à fait. D'ailleurs, les banquiers l'ont compris, puisque très souvent, ils proposent des services par Internet. Mais quand même, le bémol sur les banques en ligne, c'est que tout le monde ne peut pas y accéder. Comme c'est dit, c'est une clientèle choisie. Il faut gagner, pour certains, un minimum de 1500 euros. Pour d'autres, il faut dépenser au moins 900 euros avec sa carte. Pour d'autres, il faut bloquer une épargne. C'est
Et
pas facile.
Et pour tous, il faut déjà avoir Internet, ce qui n'est pas le cas.
En outre, effectivement. Donc, ce n'est pas tout à fait d'un accès qui est ouvert pour tout le monde. Il y en a deux, essentiellement, qui ouvrent l'accès, mais les autres, c'est quand même restrictif.
C'est de moins en moins restrictif. Hein. Les banques, alors, on voit des banques qui étaient avant extrêmement sélectives, parce qu'elles n'acceptaient, Boursorama Banque par exemple, n'acceptaient que certains clients qui avaient un niveau...
Bon, un gros client, on va dire.
Épargne ou revenu conséquent. Ils ont baissé ça, mais en contrepartie, ils lui font payer des frais de tenue de compte.
On repart au standard. Stéphane nous appelle de Seine-et-Marne. Bonsoir Stéphane.
Oui, bonsoir. J'ai tenu un commerce pendant 8 ans et moi j'avais toujours entendu parler des charges qui étouffaient le commerce. Moi, ce qui m'a fait beaucoup de mal, c'est tous les frais bancaires. Hein. Je fais un règlement en carte bleue, on me prend une commission. Je règle un fournisseur en chèque, on me prend une commission. Je suis à découvert, j'ai des agios, bien entendu. On m'envoie plusieurs courriers dans le mois à 18,50 € pour m'expliquer que j'ai des problèmes de trésorerie. On a déjà des toutes petites trésoreries parce qu'on a des toutes petites structures et on nous met la tête sous l'eau, en fait.
Mais est-ce que vous avez essayé, Stéphane, de faire jouer la concurrence?
Ah oui, j'ai changé de banque.
Et c'est pareil.
C'est exactement la même chose. C'est pareil. C'est la même chose.
Commentaire. Merci Stéphane. Commentaire de Serge Maître.
Le banquier dira, je suis un prestataire de services. Il a des services chez moi. Ça coûte. Bon, mais très souvent, ce que l'on conteste, c'est pas que ça coûte, c'est le prix que cela coûte. Et d'ailleurs, notre auditeur vient de parler de 18 euros.
18 euros le courrier.
Je vois pas trop la bonne raison, parce que je sais que j'ai des difficultés, que je suis serré. Donc, le banquier, on lui dira non, le raisonnement n'est pas bon. Ce qu'il y a, c'est que il y a des normes légales. Ah ben oui, le droit est là pour réguler de manière plus ou moins durable la relation avec un professionnel. Il y a des normes, il faut un consentement, il faut un accord, et puis après, il faut pas que ça soit répétitif. Par exemple, l'article 1131 condamne d'une tarification qui n'est pas la juste contrepartie d'une prestation. 18 euros le courrier, en lettres simples, c'est un peu cher. Le moins qu'on puisse dire.
Guillaume Clavel, vous qui avez comparé plus d'une centaine de banques, 18 euros, c'est à peu près dans la norme.
Je crois que monsieur parlait d'un compte professionnel.
Il est commerçant.
Donc les comptes professionnels sont traités différemment et les banques de professionnels ne se rémunèrent pas de la même façon que ce qu'ils font avec la clientèle particulière. Pour ce qui est de la clientèle particulière, on s'aperçoit que, et notre dernière étude, l'étude Panorabank, montre bien que toutes les banques ne se valent pas. Il y a des banques qui ont augmenté les tarifs parce qu'elles se sont mises dans une position purement défensive de leur rentabilité. Et puis, il y a d'autres banques qui sont beaucoup plus offensives et qui veulent gagner des parts de marché ou qui se préparent à l'arrivée de nouveaux acteurs. Je prends l'exemple de de banques qui avaient décidé de facturer des frais de tenue de compte. LCL avait dit, je vais facturer des frais de tenue de compte. Ils ont fait marche arrière. AXA Bank ne facture plus de frais de tenue de compte. Donc il n'y a pas que des mauvaises nouvelles, il y a des banques qui ont une liberté pour fixer leur politique tarifaire, et il y en a certaines qui vont se dire, ah, je vais préserver ma rentabilité. Évidemment, du fait des taux d'intérêt qui sont bas, ma marge sur intérêt est plus faible, parce que je gagne moins d'argent avec les crédits, parce que j'ai beaucoup de clients qui ont renégocié leurs crédits, je vais essayer de me refaire sur d'autres choses, et je vais, par exemple, faire ces frais de tenue de compte. Mais il y a des banques qui ne marchent pas comme ça, et il y a des banques qui ont une politique, soit je reste stable, soit je vais baisser ma rémunération. Et vraiment, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut, la première chose à faire, c'est de se dire, de quel type de banque ai-je besoin?
Et comparer du coup.
Et il faut comparer. Parce que quitter sa banque, il y a quelque chose qui est assez amusant. C'est que les Français, globalement, sont contents de leur banque. 70% des Français sont contents de leur banque. Mais quand 70% des Français sont contents de leur banque, c'est que 30% ne sont pas contents de leur banque. Et il n'y a que 4% des Français qui changent effectivement de banque chaque année. Donc, sur les 30, il n'y a que 4 qui changent. C'est que vraiment, les Français ne savent pas où aller. Et il y a une autre chose importante, c'est que changer de banque, c'est beaucoup plus simple que ce que c'était autrefois, mais c'est encore relativement compliqué. On va avoir en février cette année des modifications importantes qui vont faire que changer de banque, ça va être beaucoup, beaucoup plus facile.
Alors justement, pour changer de banque, bah, faut d'abord les connaître, faut faire jouer la concurrence. Lucas, vous nous appelez d'Alsace, bonsoir, soyez le bienvenu.
Oui, bonsoir à vous et à vos invités, merci de prendre mon appel. Alors justement, pour rebondir sur l'affirmation du dernier intervenant, je voulais déjà savoir, est-ce qu'il existe un comparatif fiable des services proposés par les banques ainsi que des frais par région? Et ensuite, une autre question, donc quelles sont justement ces mesures destinées à faciliter le changement de banque et qui figurent à la loi Macron qui vont s'appliquer en février? Et quelle sera ensuite la procédure pour changer de banque une fois cette loi entrée en vigueur?
Merci Lucas. Écoutez, c'est tapis rouge pour Guillaume Clavel, alors, de Panora Banque.
Ben, nous, on est un comparateur de banque. Comparateur de banque, ça veut dire comparer non seulement les tarifs, mais ça veut dire comparer les services aussi. Donc, on va vous poser un certain nombre de questions.
Vous n'êtes pas le seul, hein. Il y a meilleurtaux.com, enfin, il y en a plein d'autres.
Bien sûr, mais il faut comparer les services. Nous, il n'y a pas de banque qui compare tellement les services, de comparateur qui compare les services. Et le comparateur du gouvernement, par exemple, ne compare que les tarifs. Et comparer les tarifs sans comparer les services, ça ne sert pas à grand-chose. Donc, on vous pose un certain nombre de questions sur vos habitudes bancaires. Dans quelle région vous habitez? Est-ce que vous voulez avoir une agence? Est-ce que vous voulez avoir un conseiller personnel dédié? Est-ce que vous voulez avoir une hotline? Etc., etc. Qu'est-ce que vous voulez comme appli mobile? Est-ce que vous êtes iOS? Est-ce que, etc., etc. On va vous poser toutes ces questions et à la fin du compte, on va vous dire, pour votre région, on va vous donner éventuellement le Crédit Agricole. Il y en a 32 Crédits Agricoles en France. On va vous orienter vers le Crédit Agricole. Vous allez comparer le Crédit Agricole de votre région. D'accord? Et après ça, on va voir comment on peut vous aider à entrer en relation avec cette banque sur des bases qui vont vous faire dire que tant sur la nature du service, la qualité du service, que sur des aspects tarifaires, vous allez trouver votre satisfaction.
La deuxième question de Lucas, c'était quelles sont les mesures pour faciliter justement le changement de banque dans la loi Macron?
Ça, c'est très simple. À partir du 6 février 2017, vous allez purement et simplement aller voir la banque que vous allez choisir comme nouvelle banque. Vous allez lui donner un RIB de votre ancienne banque et vous allez lui donner mandat pour qu'elle fasse pour vous l'ensemble des opérations concernant la domicilisation des opérations automatiques. Tout ce qui est virement automatique que vous émettez ou que vous recevez, l'ensemble des prélèvements qui étaient sur votre ancien compte, tout d'un coup, dans 22 jours, tout sera de votre ancien compte sur votre nouveau compte.
Serge Maître. Et c'est gratuit. Voilà, on parle de tarification.
Non, c'est la question que je vais vous poser.
C'est vrai. Et ça passe vite. En 20 jours, quand le système fonctionnera parfaitement, en 20 jours, on aura tout transféré de l'ancienne banque à la nouvelle banque. Il y a quand même une population qui en est exclue, hein, parce qu'on va pas faire bisounours. Concrètement, il y a pratiquement 9 millions de personnes qui ont un crédit immobilier, qui ont des clauses de domiciliation des échéances, quand ce n'est pas une clause de domiciliation des salaires, qui sont laissées pour compte. Or, ce sont des ménages actifs, sans parler des personnes qui ont une assurance vie auprès de leur banque. Et là, nous savons déjà qu'il y a des résistances à l'application de cette loi qui vient pas seulement de Monsieur Macron. C'est l'Union européenne, la Commission européenne, qui est l'auteur d'une directive qui est imposée à la France de faire ce protocole.
Mais là, on comprend que c'est autrement plus complexe. Un dernier mot, Guillaume Clavel, et on part au standard.
Nous, on a le sentiment que cette loi Macron va enfin faire que le système bancaire français va être concurrentiel. À l'heure actuelle, on est dans un système qui n'est pas très concurrentiel parce que c'est une vraie tannée de changer de banque. Il y a, même si c'est facilité, c'est plus facile qu'autrefois, il faut quand même dire mon loyer, mon salaire, etc., etc. Ligne par ligne, il faut le déclarer et le donner à votre banque qui s'occupe de le faire. Mais on a tout un travail à faire. Là, ça va être fait, vraiment, on signe le mandat. Et vous n'avez même pas à demander à votre ancienne banque la clôture du compte. C'est votre nouvelle banque qui va s'occuper de rapatrier le solde que vous aviez sur votre ancienne banque, sur votre nouvelle banque.
Et ça va être tous les allergiques administratifs, c'est formidable.
Mais oui, c'est du tonnerre.
On repart au standard. Alexandre nous appelle du Périgord. Bonsoir Alexandre.
Oui, bonsoir messieurs. Bravo pour votre émission.
Merci
à
vous.
J'ai entendu qu'il y avait un monsieur de la FUB.
Tout à fait, c'est Serge Maître,
bonjour,
le président de la FUB.
Voilà je voudrais un petit renseignement. J'ai reçu par mail votre publicité.
Il n'y a pas de publicité chez nous, mais ça ne fait rien. Notre publication,
quelque chose comme ça. Votre mail. Et alors, j'ai écrit à ma banque, c'est-à-dire la banque postale, en demandant ce que vous disiez dessus, que je ne désirais pas, je n'acceptais pas l'augmentation des tarifs.
Ouais.
Voilà, alors la banquière, c'est un petit village de Dordogne, m'a appelé au téléphone et elle m'a dit, voilà, ben écoutez, on ne peut pas accepter ça. Ah ben, j'ai dit, pour quelle raison? Ben, j'ai dit, la FUB, c'est bien, ils n'inventent pas.
Non.
Mais elle m'a dit, on ne peut pas le faire, si vous acceptez pas, on vous radie de la banque. Alors, je voulais savoir de quel droit.
Alexandre, c'est très simple. Dans un certain nombre d'établissements, les employés ont reçu des directives, c'est évident. C'est pas leur propre initiative. Des directives pour tenter de dissuader le client, d'accorder à son geste les conséquences normales. C'est, vous avez refusé l'augmentation tarifaire en application du code monétaire et financier. Cela a pour conséquence que ces tarifs nouveaux ne doivent pas vous être appliqués dans leur aggravation, dans leur augmentation. Donc ça, c'est un discours dissuasif. Et concrètement, vous lui demandez tout benoîtement, puisqu'on est dans un petit village, vous avez dit, dans une petite bourgade, eh bien, de confirmer par un courrier simple même son propos. Et vous verrez que ça sera un peu plus compliqué. Mais beaucoup de clients de la banque que vous venez de citer reçoivent une lettre disant « On est les moins chers, c'est pas de notre faute, mais il faut qu'on gagne un peu plus. »
Mais Alexandre, il y a une autre banque que la banque postale dans votre petit village de Dordogne?
Non, moi j'habite un petit village. Un tout petit village, nous sommes 250 et à côté il y a une bourgade où ils sont 1200. Il y a que l'agence postale.
Et voilà, parce qu'il
n'y a pas le choix. Hein,
donc faire jouer la concurrence là pour vous, Alexandre, c'est un peu plus compliqué. Hein.
Ah ben oui, il faut aller à Périgueux ou alors il faut aller à Brantôme ou il faut aller à Tillier.
C'est la désertification.
À 25 km autour de chez moi.
Oui, c'est le désert bancaire, la désertification bancaire qu'on a déjà dénoncé, repose sur des raisonnements effectivement de profit, mais qui sont compréhensibles. Hein. Il n'y a pas assez de population, effectivement, dans un certain nombre de cas. Mais tous ceux qui reçoivent actuellement des courriers de banque qui refusent qui affirment refuser de tenir compte du pouvoir de dire non du client, eh bien, il faut l'adresser à la FUB, car nous sommes en train de préparer double réplique, hein, une réplique soit individuelle.
D'accord.
Il y a déjà une banque qui a été condamnée à titre officiel, c'est la Société Générale, pour un abus de frais de tenue de compte. Hein, c'est le tribunal de Narbonne, c'est précis. Et puis, il y aura peut-être une réplique, et je pense qu'on ira vers ça, d'une action groupée, c'est-à-dire l'union fait la force. Il est évident que ce n'est pas tout seul qu'on peut y arriver.
Et je vous soumets ce commentaire reçu par mail de Jacques dans le Morbihan. Il nous dit, il y a 2 mois, en consultant mes relevés de compte, ce que je ne fais jamais, nous dit Jacques, je me suis aperçu de l'importance des frais pratiqués. J'ai couru chez mon banquier en le menaçant de retirer tous mes comptes. Il a aussitôt effacé la totalité des frais.
Oui, parce que lorsqu'on est dans des relations humaines, comme dans les petites bourgades, hein, soyons très concrets, en province, loin des grandes métropoles, il y a un rapport humain qui est encore sauvegardé par certains établissements. La lettre recommandée n'intervient que l'ultime moyen, mais il faut l'adresser pour mettre l'établissement au pied du mur, c'est pas l'employé de banque, mais souvent l'employé de banque intervient suffisamment, et je peux vous dire qu'il y a eu 30% des cas où l'établissement a dit non à la plupart de ses clients, et pourtant dans 30% des cas, il a fini par accepter d'annuler les tarifications.
Je vous soumets un autre courriel, question de Didier à Guillaume Clavel. Je suis adhérent dans une banque de l'économie sociale et solidaire. Qu'en est-il de celle-ci par rapport aux augmentations de frais bancaires?
Alors, nous, ce qu'on a regardé en détail, c'est de savoir si les banques, disons, qui fonctionnent sous forme de sociétés anonymes, des banques comme la BNP, la Générale, etc., qui sont cotées en bourse, ont des politiques tarifaires plus agressives que les banques mutualistes, on s'aperçoit que non. On s'aperçoit que l'ensemble de ces banques ont le même genre de politique tarifaire.
Ok, on repart au standard, c'est très clair. Merci. Ça Marc nous appelle pas. Du Val-de-Marne. Non, pas vraiment. Marc Val-de-Marne, bonsoir, soyez le bienvenu.
Bonsoir. Bonsoir à tous. Merci de m'avoir retenu et puis pour la qualité de vos émissions également.
Merci.
Je voulais revenir sur les banques en ligne. Bien qu'il y ait eu beaucoup d'éclaircissements, de clarifications, maintenant je comprends mieux leur fonctionnement et le type de public qui est recherché. Le type de client plutôt qui est recherché. Et sur les banques en ligne, je trouve que bon, c'est peut-être une très bonne chose, ça facilite les démarches, il n'y a pas à se déplacer. Seulement, déjà, vous avez vu en début d'émission les banques qui réduisent leurs frais, et notamment les frais de personnel. Et moi, je trouve que c'est un danger, parce que j'aime également dans d'autres formes de commerce avoir une relation personnel avec quelqu'un que je vois et à qui je peux demander des questions plus précises. Et donc, je préfère avoir un conseiller financier face à moi. Je trouve que c'est plus enrichissant et que j'ai davantage confiance. Et puis également, dans la banque en ligne, si ça attire énormément de monde, de clients, eh bien... Le danger que je vois, c'est peut-être parce que les relations internes, Internet ne sont peut-être pas, on dit que c'est sécurisé, mais je crains aussi un piratage des données et j'aimerais avoir des précisions à ce niveau. Voilà.
Écoutez, merci Marc de cette double question qui finalement se résume en un mot, hein, c'est la confiance. La confiance en son banquier humain et puis la confiance en un système. Guillaume Clavel.
Alors la confiance à partir du moment en effet où vous voulez avoir une agence, où vous voulez parler avec quelqu'un les yeux dans les yeux pour des questions de confidentialité. Le banquier, il connaît énormément de choses sur vous. Il sait combien vous gagnez d'argent, il sait combien vous payez d'impôts, il sait ce que vous versez comme argent sur le compte joint, etc., etc. C'est quelqu'un qui a beaucoup d'informations sur vous et je comprends très bien qu'on veuille avoir un discours les yeux dans les yeux avec un chargé de compte qui va vous suivre au cours de votre vie, que vous allez connaître jeune, et puis après ça, il va vous faire votre premier crédit pour acheter votre voiture, puis après ça, un crédit immobilier quand vous allez avancer dans la vie, etc., etc.
Je crois que même si on parlait de banquier de famille comme on parlait de médecin de famille il y a quelques années, il y a un tel turnover dans les banques que c'est vraiment moins vrai. Hein.
C'est vrai, mais il y a quand même des gens qui sont relativement au courant des dossiers. Moi, je dois dire que j'ai un chargé de compte chez LCL, ça fait quelques années qu'il est là. Pour ce qui est de la banque en ligne, il y a quelque chose qui est important de se dire, c'est que c'est encore très nouveau. C'est pas quelque chose qui est rentré dans les habitudes, ça le rentre, mais c'est quelque chose qui fait que les gens se disent, est-ce que je peux encore vivre sans une agence ? Il se trouve que les gens ne vont plus dans leurs agences, de moins en moins. Ils ont de plus en plus de contacts avec leur banque via Internet, via le téléphone, mais ils ne passent pas par leur agence. Alors, une chose importante, Boursorama Banque, qui est filiale de la Société Générale, donc qui est aussi solide que la Société Générale, on pourrait imaginer, gagne chaque année autant de clients que sa maison mère. Donc, la croissance, elle se fait bien là. C'est bien là que des banques se développent. Quand on voit que Orange va lancer une banque et qu'il a comme objectif d'avoir, dans quelques années, à peu près 2 millions de clients, il va bien les prendre quelque part, ces 2 millions de clients.
Le deuxième axe de la question de Marc sur la confiance, c'était la sécurité de ces sites.
Alors, la sécurité des sites, elle est absolument équivalente sur l'ensemble des sites que vous avez dans les banques traditionnelles, qui ont un double business model, qui ont un double façon d'être en contact avec leurs clients. Elles ont un contact en agence et elles ont un contact au travers de leur site internet, enfin au travers de l'appli mobile. Donc les deux sont totalement comparables.
Serge Maître, pas tout à fait d'accord visiblement.
Bon, c'est pas d'accord, c'est qu'on parle beaucoup depuis 10 ans du développement des banques en ligne. Ce qu'on voit, c'est que ce sont des banques qui restent des banques de niche pour le moment. De 3 à 6% des clients, selon les statistiques, elles sont ouvertes, 3 à 6%. Donc ça n'évolue pas comme on pouvait l'imaginer. Et sans aucun doute, est-ce la conséquence de ce que la plupart des banquiers traditionnels, ceux qu'on retrouve au coin de la rue, ont doublé leurs services par des accès Internet qui permet de ne plus aller à son agence. Et quand on parle du fait que nous, consommateurs, on va de moins en moins à notre agence, c'est qu'on nous en a chassés. Les retraits d'espèces se font plus et les dépôts d'espèces se font plus en agence. Lorsqu'on veut un carnet de chèques ou autre, tout se fait par un guichet automatique de banque. Donc là, je dirais qu'on a été guidé un peu comme les bœufs à l'abattoir vers une pratique bien particulière qui nous évite et qui nous élimine de la clientèle susceptible d'aller en agence.
On repart au standard où Philippe nous appelle du Doubs et je suis ravi d'entendre un banquier. C'est ça, Philippe? Bonsoir.
Oui, bonsoir, tout à fait. Donc, merci de prendre mon appel et je vous remercie également pour la qualité de vos émissions. Je voudrais juste revenir sur le fait, on parlait de la facturation des frais de tenue de compte. Moi, je travaille dans une grande banque depuis plus de 40 ans. Je pourrais être en retraite et je continue de travailler tellement j'aime mon métier, j'aime mes clients me le rendent bien. Aujourd'hui, si vous voulez, dans la banque dans laquelle je travaille, il faut savoir que les clients qui ont l'offre de globale de services avec la carte, l'assurance qui couvre les moyens de paiement, ce que la plupart des banques proposent, pour laquelle ils vont payer une tarification de, je sais pas, de 8 ou 10 euros par mois avec deux cartes bleues, ces clients-là qui ont également l'offre relevée en ligne, c'est-à-dire qu'ils ne souhaitent plus recevoir de relevé papier, ces clients sont totalement dispensés de frais de tenue de compte, ainsi que les jeunes clients jusqu'à leur 26e anniversaire, et que nous accompagnons d'ailleurs dans la gratuité souvent de frais donc bancaires traditionnels, car ces jeunes clients n'ont pas de revenus, donc on les accompagne donc durant leurs études. Voilà.
Excusez-moi, mais vous travaillez en quelle banque?
Allez,
un peu de pub.
Non. Voilà, je travaille dans une grande banque, mais je ne veux pas la citer parce que déjà j'interviens à l'antenne. Mais je suis tellement fier de mon établissement. Voilà.
Mais merci de nous avoir appelé. Merci de ce commentaire, Philippe.
Je vous en prie.
Serge Maître.
Vous demandiez un nom. Il y a par exemple 5 caisses du Crédit Agricole, caisses régionales, qui ne comptent pas de frais de tenue de compte. Pour demander la liste, vous adressez un mail à la FUB. Mais il y a des établissements, d'implantation locale importante, qui ne taxent pas leurs clients comme les d'autres le font.
Guillaume Clavel, on n'a pas entendu le début de votre phrase.
Le crédit coopératif ne facture pas de frais de tenue de compte. LCL voulait en facturer et a fait marche arrière, si vous domiciliez vos revenus. AXA Bank, qui en facturait, a arrêté d'en facturer. Et monsieur a raison, à partir du moment où on souscrit à une offre groupée de services, à un package, où on va avoir un abonnement mensuel pour sa carte, l'assurance de ses moyens de paiement, éventuellement une petite autorisation de découvert, quelques types d'opérations, etc., etc. Dans ces cas-là, on ne paiera pas de frais de tenue de compte.
On repart au standard. Christophe nous appelle de Poitou-Charentes. Bonsoir, Christophe.
Oui, bonsoir.
Bonsoir, on vous écoute.
Je vous appelle pour savoir pourquoi le législateur n'intervient-il pas plus nettement contre ces hausses tarifaires?
Il a intervenu. Le législateur est très fortement intervenu il y a 2 ans quand il a décidé de faire que l'ensemble des commissions d'intervention, c'est-à-dire des commissions que vous allez payer chaque opération qui vous amènera dans le rouge vif où vous allez dépasser votre autorisation de découvert, le législateur l'a imposé, plafonné à 8 euros 10 fois par mois maximum. Et ça, c'est vraiment le législateur qui fait que les banques qui facturaient pour certaines moins, mais pour beaucoup, beaucoup plus que cette somme-là, ont eu des revenus. Après ça, on est dans une économie concurrentielle, il faut que les banques puissent avoir leur politique tarifaire.
Serge Maître sourit.
Oui, disons que là, pour le plafonnement que vous évoquez, l'État s'est référé à la moyenne des prix pratiqués par les banques. Donc, il n'a pas fait de gros sacrifices, contrairement à le plafonnement des tarifs sur les rejets de chèques ou de prélèvements. Mais ce qu'il est, c'est que la question de Christophe, c'est qu'est-ce qui est fait pour que l'augmentation des frais ait une régulation durable, pour qu'on ne soit pas soumis tous les ans à un psychodrame tarifaire tarifaire comme on le connaît. Eh bien, c'est là, je le dis aux uns et aux autres, c'est la raison pour laquelle nous disons l'union fait la force. Lorsque vous avez écrit à votre banquier pour refuser l'augmentation tarifaire, on ne vous a enjoint de, enjoint c'est peut-être un mot un peu fort, mais sollicité d'envoyer le double de votre lettre à Michel Sapin, le ministre des Finances. Et pourquoi? Ben, quand on l'a fait en début 2015, celui-ci, devant l'afflux des courriers reçus par son ministère, a décidé de demander à un inspecteur général des finances une enquête importante. Bon, elle accouche d'une souris, ça c'est le problème de l'administration, mais si on revient, nous pensons qu'il faut faire bouger les lignes, car la protection n'est pas seulement de refuser, n'est pas ensuite de faire des actions judiciaires, mande une pipe, que de déménagement pour 2,50 € ou une augmentation de 4%. Non, c'est de demander au pouvoir public d'assurer une régulation durable. Elle se fait en termes de concurrence, en la stimulant, ce qui n'est pas véritablement fait actuellement, puisque tout à l'heure j'ai pu dire que même changer de banque sera assez compliqué pour un minimum de 9 millions de personnes qui sont des ménages actifs avec un crédit immobilier.
Mais donc, pour d'autres facilités.
Facilités. Donc nous sommes là devant une interpellation des pouvoirs publics pour qu'ils mettent les pieds dans le plat, ce qui n'est pas le cas. Il n'y avait que M. Macron en octobre dernier, et oui, l'année dernière, hein, qui avait dit qu'il était contre les frais de tenue de compte, mais il n'a pas récidivé la copie.
Il entendra le message. Bonsoir Jocelyne, vous nous appelez de Nantes.
Oui, bonsoir, merci pour vos émissions. Je souhaite une bonne année à toute l'équipe de France Inter et à ses invités.
Très belle année à vous.
Merci, bonne année. Voilà, merci. Donc du coup, ma soupe est froide, mais ce n'est pas du tout grave. je me permets juste de poser une question. Personnellement, je suis depuis 30 ans dans la même banque, à Nantes, au Crédit Mutuel, et j'ai beau regarder sur mes mails et dans ma boîte aux lettres, je n'ai reçu personnellement, individuellement, aucun courrier m'indiquant que les frais allaient changer, de quelle manière ces frais à l'échanger. Donc voilà, je sais comme tout le monde, comme vous le dites, que les frais vont augmenter, mais je n'ai aucune information et je voulais savoir, tout simplement, si c'était légal que d'un seul coup on va m'augmenter mes frais sans même m'indiquer comment ça va marcher et du coup est-ce que je peux juste subir comme tout le monde, voilà.
Serge Maître trépigne à l'idée de vous répondre.
Oui, on peut le dire comme ça. Disons que concrètement, on a parlé de moyenne, mais cela dépend des établissements. Le Crédit Mutuel n'a pas augmenté ses tarifs à notre connaissance au 1er janvier, mais semblerait, je parle au conditionnel, le prévoir pour le 1er juillet, donc soyez vigilants.
Vous avez 6 mois de répit.
Voilà.
Oui.
Mais l'année dernière, il les avait augmentés à peu près au mois d'octobre-novembre en prévenant ses clients après coup. Donc vous devez... Mais
ça, légalement, la banque doit informer lorsqu'elle change de tarification.
Avant, 2 mois au moins avant le changement de tarification, elle doit informer ses clients et leur rappeler qu'ils peuvent refuser. Ah, mais comme là, il y a quand même beaucoup de discrétion de la part des banques et sans doute un peu de pudeur, elles n'informent pas comme cela, généralement, qu'on a 2 mois pour refuser. Je le répète, ce n'est pas une création comme cela. C'est pas du prosélytisme ou de la philosophie, c'est du code monétaire et financier.
J'aimerais vous soumettre à tous les deux une dernière question, puisqu'il nous reste un peu moins de 2 minutes. Question d'Isabelle sur franceinter.fr. Existe-t-il de véritables, nous dit Isabelle, banques solidaires et éthiques? Guillaume Clavel.
Moi, je pense que la banque, elle a évidemment un rôle social important. La banque en elle-même est un élément essentiel de la solidarité et de la vie sociale. Il y en a qui vont se prétendre plus ou moins avec un axe solidaire. On va avoir des banques mutualistes qui vont revendiquer cette nature de service. Après ça, la réalité de ce qu'il y a derrière, je ne le connais pas.
Disons que concrètement, en étant très bref, il y a des banques, disons des établissements financiers qui ont une gestion d'épargne qui se veut socialement responsable, c'est vrai. Quant à leur activité, quand ils en ont une de banque, c'est-à-dire de dépôt et pas d'épargne, les plaintes que nous recevons à l'égard des uns et des autres, même des établissements qui disent qu'on est sociétaire et pas client, montrent que les attitudes ne sont pas très différentes des banques commerciales traditionnelles comme tout à l'heure, il était expliqué.
Je vous soumets, il nous reste 20 secondes, la question d'Alain au Pays Basque. Les banques obligent leurs clients à prendre l'assurance emprunteur. Le banquier vous dit que si vous ne prenez pas cette assurance chez lui, il le fera quand même payer plus tard. C'est scandaleux, nous dit Alain. Vrai, faux?
Disons que signez votre crédit avec l'assurance emprunteur de la banque et puis vous avez 12 mois pour retirer la carpette et passer à un autre assureur. La loi vous protège et elle s'est même éclairée en automne, donc c'est encore beaucoup plus certain.
Eh bien, écoutez, merci de cette réponse. Serge Maître, président de l'AFUB, l'Association française des usagers des banques. Et merci beaucoup Guillaume Clavel, président fondateur du comparatif donc Panorabank, dont je citais l'étude en tout début de d'émission, 20h15 sur France Inter.